Donc c'est reparti pour cette émission donc de Kiki et les drôles d'oiseaux. Donc on continue avec vous, donc Joël et Mickaël. Et on va continuer alors à parler des manuscrits de Qumran et donc de faire le lien avec ces deux romans dont tu nous as parlé avant, Les Mystères de Jérusalem et Qumran.
Exactement. Donc on a déjà parlé de différentes questions par rapport au fameux trésor. Il y a une autre chose en fait qui revient et vraiment très fort dans les deux livres, c'est que Les Mystères de Jérusalem et Qumran parlent beaucoup des Esséniens. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire rapidement qui sont les Esséniens? Est-ce que tu le
Ouais,
feras mieux que moi?
les Esséniens, c'est un groupe de juifs au tournant de notre ère qui sont connus par quelques sources à droite à gauche qui nous disent qu'ils vivent en communauté, que d'ailleurs certains prônent le célibat. Enfin, tu vois, il y a un petit peu des. Ils sont un peu en marge, disons, de la population. Maintenant, dans d'autres textes, on nous dit qu'au contraire, ils sont très bien implantés, ils sont partout et qui, en tout cas, manifestement, ils remportent un certain succès auprès de la population. Beaucoup de gens adhèrent, si tu veux, à ce moment.
Voilà, donc en fait, principalement dans Qumran, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent autour des Esséniens et du site de Qumran. Et une des hypothèses qui est avancée, c'est que le maître de justice des Esséniens, ce serait Jésus. Donc, enfin,
Ouais.
je sais pas si je m'exprime déjà trop avant en fait dans ma question, mais.
Ouais. Dans les manuscrits de la Mer Morte, il est question d'un personnage qui s'appelle l'enseignant juste ou le maître de justice. Et alors effectivement, d'abord, on pense que ces manuscrits-là, on a dit que c'était des manuscrits esséniens. C'est pas sûr en fait, à vrai dire. Même l'idée même que les
Ouais, mais
manuscrits de la
dans
Mer Morte. Enfin
Qumran,
bref.
c'est vrai.
En tout
Voilà.
cas, disons que l'hypothèse traditionnelle et celle qu'on retrouve du coup et qu'on va retrouver dans ce type de roman, c'est effectivement l'hypothèse essénienne, comme quoi cette communauté religieuse, ce sera un groupe d'Esséniens, éventuellement des Esséniens séparatistes, mais avec à leur tête un personnage qui s'appelle le maître de justice, et donc il a toutes les qualités, il les emmène, et c'est grâce à lui qu'ils vont obtenir la révélation, c'est lui qui va leur permettre d'attendre jusqu'à la fin des temps. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être Jésus. Mais sauf que il y a une différence, c'est que justement le maître de justice, enfin dans la communauté de Qumran, dans les manuscrits de la Mer Morte, on attend la venue du Messie. On dit pas, ah, le maître de justice, bah, c'est lui le Messie, il est venu. On l'attend encore, le Messie. Et même dans certains textes, on a l'impression qu'on attend deux Messies. Il y a un Messie qui sera un Messie roi et un Messie qui sera un Messie prêtre. Donc l'un avec des fonctions, disons, politiques et l'autre avec des fonctions religieuses. Alors qu'avec Jésus, c'est pas le cas, puisque c'est lui le Messie. Donc c'est pas, il vient pas pour annoncer le Messie. À la limite, ça pourrait être Jean-Baptiste, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis aussi, il y a une différence fondamentale, c'est que Jésus, il est présenté dans le Nouveau Testament comme ayant les deux composantes à la fois royale et sacerdotale. Il est les deux Messies en un, en fait.
Merci.
Ouais.
Une autre hypothèse qui est présente dans Qumran, c'est que les Esséniens, en fait, ils auraient survécu jusqu'au XXe siècle. Que ça serait une sorte de secte juive qui existerait toujours en souterrain.
Ouais, ça c'est intéressant ça. Alors, pourquoi pas? Peut-être pas sous le nom essénien. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on a découvert ces manuscrits, on s'est rendu compte qu'il y avait des parallèles dans d'autres textes qu'on connaissait, mais qui étaient issus d'autres mouvements. Par exemple, dès les années 50, il y a un chercheur français, André Paul, qui a déjà tout de suite fait le lien avec les Karaïtes. Et les Karaïtes, c'est une branche du judaïsme qui est ultra minoritaire à Jérusalem. Il y a
En
une
fait, ils en parlent
synagogue
dans
Karaïte. Ah oui, ils en parlent, ouais.
Les Mystères de Jérusalem, parce qu'en fait, le père du gars qui se fait tuer au début, en fait, il est karaïte.
Ah voilà, c'est ça, ouais. Donc quand tu regardes les Karaïtes, tu peux dire d'une certaine manière, les Karaïtes sont des descendants des Esséniens. Alors ils n'ont pas le même nom, mais en fait, on retrouve un certain nombre de points communs. C'est un peu les héritiers, les descendants. Et puis au-delà des Karaïtes, même dans la littérature juive, la littérature de la Kabbale, la littérature un peu mystique, le Zohar, tout ça, enfin toute cette littérature un peu mystique, la littérature de la Merkava, en fait, on retrouve beaucoup d'éléments de cette mystique juive qui est déjà présente dans la littérature de Qumran. Donc d'une certaine manière, on peut dire aussi que ça, c'est des réminiscences. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a un groupe qui prend le nom d'Esséniens, qui se réclame, qui dit « nous sommes les Esséniens », pourquoi pas à la limite.
Dans le livre, ils disent pas « nous sommes les Esséniens ». C'est plus... Enfin, oui, c'est souterrain.
C'est souterrain, ouais. Voilà. Bon.
Mais bon, ils existeraient toujours. Et du coup... dans Qumran, ils appelaient, les Esséniens existent toujours en souterrain. Et en gros, ils se seraient fait voler leurs manuscrits, qui sont les manuscrits de la Mer Morte, qu'ils avaient eux-mêmes cachés pour les protéger. Mais ils savaient qu'ils étaient là, etc. Et donc...
Ouais, voilà. La filiation directe, moi j'y crois pas trop de dire voilà, nous sommes les Esséniens les mêmes, mais que les idées elles-mêmes, qu'elles soient restées, y compris dans des groupuscules juifs un peu souterrains, ça me surprend pas. Précisément, les Esséniens, c'est le type de communauté un peu apocalyptique, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des révélations, ou on dirait gnostiques dans les milieux grecs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une connaissance particulière. Et en fait, par exemple, le nom des anges. L'historien juif Flavio Joseph dit « Ah, mais les Esséniens, eux, ils connaissent le nom des anges. » Parce que ça ne s'invente pas, le nom des anges. Ou bien on a une visite de l'ange qui dit « Voilà, je m'appelle l'ange un tel. » Donc soit on l'a rencontré, soit du coup on a une révélation divine. Et à Qumran, tu retrouves les noms des anges. Il y a les anges, les bons anges, les archanges. Le chef des archanges s'appelle Michael, d'ailleurs.
Heureux hasard.
Bon, il y en a un qui s'appelle Raphaël aussi. Hein, donc,
c'est bon, on a déjà...
Autour de cette table...
Meilleur, non,
absolument. Ah, oui, non, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on a ces noms-là qui apparaissent. Et puis on a aussi de l'autre côté les anges déchus, les mauvais, les chefs des anges déchus. Et on a aussi leurs noms. Et ça, clairement, on se rend bien compte que c'est pas une documentation, c'est pas un truc qui était amené à être diffusé largement. Très vite, on a mis le couvert là-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça des textes apocryphes. Apocryphe, ça veut dire caché. Donc, dans le livre d'Enoch, où on a tous ces trucs-là, toutes ces informations-là, bah, en fait, on l'a volontairement mis de côté, ce livre. Et je crois qu'il y a des communautés qui ont continué à lire, à transmettre et à être un peu les héritiers. Et probablement aussi des sortes de sociétés secrètes qui ne voulaient pas que ce soit révélé au grand public. Ça ne m'étonne pas.
Voilà. Un gros pavé d'hypothèses, qui est un peu présent dans les deux livres, mais principalement Qumran, c'est que... la première hypothèse, c'est qu'on nous cacherait des manuscrits parce que ça pourrait avoir des répercussions colossales sur le christianisme, etc. Ou que le Vatican ou d'autres groupements religieux chercheraient à faire ralentir les publications. Enfin, la grosse conspiration, il faut cacher les manuscrits pour pas découvrir des choses qui pourraient bouleverser les fondements de la foi chrétienne. Etc. Vrai, faux.
Écoute, tu vois, la question, elle s'est posée. Parce que le responsable des fouilles, le directeur des fouilles, c'était l'ancien directeur de l'école biblique archéologique française, celle où j'ai passé 2 années. Et c'est une école, ce sont des dominicains. Donc c'était le père Roland Devaux, un Français, un dominicain. Et donc c'est lui qui a mis sur pied cette équipe de gens qui ont déchiffré les manuscrits, tout ça. Et ça se passait... notamment à l'école biblique archéologique française de Jérusalem. Et dans la mesure où on se dit « Ah, mais l'archéologue en chef du chantier et celui qui recrute les autres, c'est un prêtre, forcément, il reçoit ses ordres du Vatican. Donc, on pouvait suspecter, on pouvait se poser des questions. Et quand tu ajoutes à ça le fait que pendant des années et des années, il n'y a pas eu de publication, ou très peu, ils ont publié un volume, dans les années 50, on commence à publier les manuscrits. Après ça, pratiquement plus rien, quoi. Et pendant 20 ans, 30 ans, il n'y a presque eu aucune publication. Les gens trouvaient ça louche. En disant pourquoi ils ont commencé, ils ont pris un rythme, un volume, un deuxième volume, et puis ensuite plus rien. Quand on sait que c'est des prêtres, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose qui doit les déranger, ou ils ont reçu des instructions. Donc c'est clair que là, il y a de quoi se poser la question. Alors peut-être on peut y répondre, mais peut-être on fait une petite pause, et comme ça on garde le suspense aussi pour essayer de donner la réponse à nos chers auditeurs.
Suspense insoutenable, j'ai envie de dire. En tout cas,
j'ai toujours rêvé de dire ça.
Bon, tu l'as fait.
Pour mieux vous faire patienter, on va mettre un petit peu de musique, et donc on se retrouve juste après.